France Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Le bac Blanquer travaille-t-il à la réduction ou à l'aggravation des inégalités? Quelle valeur l'examen final aura-t-il demain? Jouera-t-il encore ce rôle de transmetteur vers le supérieur? Des copies de bac bloquées par les correcteurs, des jurys qui refusent de délibérer. La contestation de la réforme de Jean-Michel Blanquer se cristallise aujourd'hui encore autour du baccalauréat. Plus si sacro-saint que ça, disent certains. Ce qui est sûr, c'est que le ministre de l'Éducation a assuré, lui, que tous les bacheliers auront leur résultat aujourd'hui, que le blocage serait contourné en remplaçant les copies non rendues par les grévistes par des notes du contrôle continu. On l'écoute, c'était le 3 juillet dernier.
Les élèves auront leurs résultats. C'est mon devoir de garantir cela et c'est bien entendu normal que les élèves aient leurs résultats à la date prévue, ne serait-ce que parce qu'il y a des conséquences des résultats, notamment le fait de passer éventuellement l'oral de rattrapage en début de semaine prochaine. Et pourquoi est-ce qu'ils auront leurs résultats ? Premièrement parce que il y a ce que j'ai dit notamment ce matin, c'est-à-dire le fait que les professeurs qui se mettraient dans la situation de ne pas avoir rendu leurs copies sont considérés comme grévistes à partir du jour où ils ont pris les copies et jusqu'au jour où ils devaient les rendre. Je pense que c'est dissuasif et d'ailleurs aujourd'hui même, nous avons vu revenir plusieurs dizaines de milliers de copies, ce qui fait que nous avons confiance dans le fait que beaucoup de copies seront rendues encore jusqu'à demain matin.
Nous sommes aujourd'hui le 5 juillet et c'est le jour des résultats. Nos invités, la sociologue de l'éducation Agnès Van Zenten, directrice de recherche au CNRS, et le président de l'association des proviseurs de lycée à classe préparatoire, Jean Bastianelli, lui-même proviseur du lycée Louis-le-Grand à Paris. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, de fait, le bac aujourd'hui, pour beaucoup, n'est plus qu'une formalité. Reste que avoir les résultats ou pas. Est-ce que c'est si grave que ça, Agnès Van Zenten?
Avoir les résultats des bacs?
Oui, ou ne pas les avoir, parce que ce serait grave.
Oui, enfin, c'est vrai que depuis qu'on a changé le système et qu'effectivement l'affectation dans le supérieur s'est fait avant d'avoir les résultats du baccalauréat, effectivement, on voit bien qu'il y a une dépréciation du baccalauréat. Après, ça dépend un tout petit peu si l'on voit le baccalauréat juste comme une entrée dans le supérieur ou qu'on le voit comme une façon de mesurer les acquis des élèves dans l'enseignement secondaire et notamment au lycée. De ce point de vue, je pense qu'il est utile de garder un examen terminal. Il n'était peut-être pas nécessaire effectivement qu'il ait autant d'épreuves pour l'examen terminal, mais c'est quand même quelque chose d'important et on voit que les systèmes plus inégalitaires sont ceux qui ont pas d'examen aussi qui sanctionne de façon nationale le niveau des élèves. Donc.
Important car il y a sa valeur réelle mais aussi sa valeur symbolique. Jean Bastianelli, cette épreuve finale, est-ce qu'elle incarne encore ce passage à l'âge adulte? Est-ce qu'elle est encore pour beaucoup de familles une forme de reconnaissance républicaine, une fierté aussi de voir ses enfants passer ce cap?
Je pense que cette valeur symbolique est extrêmement forte et reste et perdure, quel que soit le regard qu'on peut avoir sur le baccalauréat ces dernières années ou en prospective sur les années qui viennent. À preuve, le très gros attachement qu'on repère auprès des jeunes sur la question de la mention au baccalauréat, qui en fait ne joue pas de rôle décisif sur la question d'accéder à l'enseignement supérieur, mais qui symboliquement et pour les familles est quelque chose de très fort.
On est entré aujourd'hui dans une séquence politique autour du baccalauréat, pris en otage pour certains par les professeurs, les correcteurs qui ne veulent pas de la réforme du bac proposée par Jean-Michel Blanquer et avec de sa réforme du lycée. Au contraire, pour d'autres, ce serait Jean-Michel Blanquer qui prendrait le bac en otage d'une certaine manière par son intransigeance. Pour le Figaro, Jean-Michel Blanquer serait en train de réaliser même un coup de billard à trois bandes, Agnès Van Zenten, en court-circuitant les professeurs grévistes, en démontrant l'inutilité du bac dans sa forme actuelle et en introduisant une dose de sa réforme avec 2 ans d'avance. Est-ce que pour vous, le ministre va sortir vraiment gagnant de cette séquence?
Alors, disons qu'en tant que sociologue, c'est pas tout à fait mon problème de ce point de vue, mais je dirais que, et ce qui est très préoccupant, c'est effectivement la façon dont sont conduites les réformes en France, et effectivement, c'est au pas de charge, c'est très très vite, il y a aucune expérimentation des effets, et effectivement, des questions vont se poser par rapport aux effets que ça va produire dans les différents lycées, et est-ce qu'on aurait pu anticiper un certain nombre de questions? Est-ce qu'on n'aurait pas pu consulter davantage un certain nombre d'acteurs par rapport aux conditions de leur mise en œuvre. Alors, je ne suis pas nécessairement d'accord avec toutes les revendications des enseignants, ni pas nécessairement toujours d'accord avec les moyens d'action qui sont adoptés, mais je pense qu'effectivement, il y a une insatisfaction profonde par rapport à la façon dont les réformes éducatives sont conduites en France. Et effectivement, dans ce dernier ministère, on voit qu'on a lancé énormément de choses, mais sans effectivement expérimenter, accompagner les réformes. Et effectivement, il y a une insatisfaction profonde sur le terrain qui se cristallise aujourd'hui par rapport, bien sûr, au symbole que représente le baccalauréat, ce qui vient d'être rappelé.
C'est ce que disent beaucoup de professeurs aujourd'hui et de syndicats. Les mots de la secrétaire générale du SNES-FSU, Frédéric Rollet.
Ce que le ministre est en train de faire, c'est du bricolage et qui va profondément choquer les jurys. On est attaché en France à la souveraineté des jurys parce que justement, c'est ce qui aussi garantit le caractère national du bac. Là, il est déjà en train d'introduire le contrôle continu. En plus, il va mettre certains candidats dans une situation intenable. Vous avez des jeunes qui auront, par exemple, eu pendant l'année d'assez bonnes notes et puis qui ont eu une note inférieure au baccalauréat, qui vont voir leur copain qui, lui, a plutôt... aurait peut-être eu une note moins bonne que la leur au contrôle terminal qui va se trouver avantagé. Donc il y a rupture d'égalité envers les candidats. Tout ça va être rebrassé ensuite. Donc ce sont de faux résultats en plus qu'on va donner à certains candidats. C'est absolument inqualifiable.
Voilà, une réforme, c'est un peu comme la météo, il y a le fond de la réforme et le ressenti qu'on peut en avoir, vous l'évoquiez Agnès Van Zanten, sans froid ou intransigeance du ministre. Pour beaucoup, il leur est manqué de pédagogie sur sa réforme, de dialogue avec le corps enseignant et des syndicats. On va tenter de renouer avec vous deux le dialogue sur cette question et de comprendre ce qui est en train de se jouer réellement. Sur la question de la rupture d'égalité, Jean-Bastien Delis, sur la question aussi de la valeur réelle du bac aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai que de toute façon, les affectations maintenant via Parcoursup se jouent bien avant même le début des épreuves et qu'en ce sens, le bac à lauréat n'est plus la porte d'entrée comme il l'était auparavant vers le supérieur?
Alors c'est exact, hein, à la fois oui et à la fois non. C'est exact que depuis quelques années, les procédures d'orientation et de décision d'orientation vers le supérieur se jouent avant le baccalauréat. Mais le baccalauréat reste quand même une condition pour accéder à l'enseignement supérieur, comme on le sait bien. Néanmoins, on observe dans les établissements scolaires un mécanisme qui s'est peu à peu installé, où les élèves qui sont en terminale finalement vivent leur année et les tensions de leur année autour d'un point central qui est celui du mois de mars où tous les dossiers d'orientation vers le supérieur, que ce soit APB avant ou Parcoursup maintenant, vont être effectivement couchés sur le papier par les équipes enseignantes, par les établissements, où ils vont faire leur vœu de façon précise et où au fond ils ont l'impression que les choses seront jouées. Derrière, le baccalauréat sera, on va dire, pour certains, un passage obligé à obtenir encore, et pour d'autres, une formalité, tout simplement, dont l'enjeu n'est que l'enjeu symbolique dont on parlait tout à l'heure, qui fait que, vis-à-vis de soi-même, on se dit, une mention, ça fera du bien.
Vous qui représentez, Jean-Bastien Elie, les proviseurs de lycée à classe préparatoire, quel bilan faites-vous un an après de Parcoursup? Est-ce qu'il vous semble urgent de mettre en œuvre certains ajustements pour que cette plateforme fonctionne mieux? Est-ce que dans l'essence, vous la trouvez déjà intéressante?
Alors, dans l'essence intéressante, oui, et ajustement nécessaire, oui aussi. Ce qu'on peut déjà observer, et au sein de mon association, c'est une affaire que nous suivons de très près, et sur laquelle nous rédigeons et nous formulons beaucoup de conseils ou d'avis à destination du ministère de l'Enseignement supérieur. On constate que entre la première session et la deuxième, il y a déjà beaucoup d'ajustements qui ont été faits et qui vont dans le bon sens. Déjà sur une question de calendrier qui avait été extrêmement tardif sur la première session, qui a été beaucoup anticipée sur cette deuxième session et qui permet d'avoir, on va dire, une fluidité nettement meilleure et donc de rassurer les élèves qui sont dans cette phase de d'orientation importante pour leur vie. Sur le principe, le fait de choisir son orientation non plus comme une orientation théorique avec un classement théorique des priorités, comme ça se faisait auparavant, mais bien sûr des propositions qui sont faites et entre lesquelles on choisit le jour des résultats, cette année le 15 mai, à notre sens, c'est un progrès. Et cela s'inscrit bien plus naturellement dans la problématique d'orientation et de choix d'orientation par les élèves. Après, il en découle un certain nombre de complications techniques qui font que tout n'est pas toujours facile. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire que tout est bien ni que tout est mal. On constate qu'il y a une démarche, un paradigme sur l'orientation post-bac qui a changé et qui est intéressant. Et que, en revanche, on est encore en phase de, on va dire, de maturation et d'ajustement sur le fonctionnement.
Oui, avec des discussions notamment aussi sur la personnalisation ou l'anonymisation des procédures à accentuer dans un sens ou dans l'autre. Agnès Van Senten, votre bilan un an après.
Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ces deux réformes, que ce soit la réforme du lycée ou la réforme d'APB puis Parcoursup, c'est cette idée autour des choix des élèves, parce que il y a un tout petit peu l'idée que le choix peut être une forme d'égalité. Et c'est vrai que on peut se dire, d'un certain côté, c'est vrai que l'existence des filières, on le sait en France, en général, ça va dans le sens d'une hiérarchie des filières, et donc le fait de faire disparaître les filières dans la réforme du lycée peut effectivement diminuer cette hiérarchie existante. Mais on se pose pas les problèmes, de mon point de vue, de fond, de l'inégalité des élèves face au choix. Des inégalités qui sont très fortes par l'accompagnement des choix dans la famille, qui est très très différente selon bien sûr les milieux sociaux et la connaissance qu'ont les familles. Et là, ça touche non seulement les familles des milieux populaires, mais souvent les familles des classes moyennes, parce que l'enseignement supérieur en France, c'est vraiment un des enseignements les plus fragmentés au monde, avec la plus grande diversité des filières, des types, des diplômes, d'établissements, grandes écoles, etc. Ouais. Donc c'est, même pour un spécialiste, moi j'avoue que moi-même je découvre en permanence des nouveaux diplômes, des nouvelles formations, donc c'est très très difficile à se repérer dans ce maquis. Et par ailleurs, et ce que j'ai montré un peu dans mes travaux récents dans des établissements scolaires, on avait comparé 4 lycées, c'est que les lycéens sont accompagnés de façon extrêmement différente selon l'établissement où ils se trouvent. Non pas nécessairement parce que les personnels qui travaillent dans les lycées défavorisés soient moins professionnels, c'est simplement souvent leurs priorités sont autres, c'est que les élèves ne décrochent pas, c'est que il faut assurer la réussite au baccalauréat qui n'est pas garantie, etc. Et donc, il y a une mobilisation beaucoup moins grande, une personnalisation beaucoup moins grande et l'accompagnement des élèves. Et donc, il y a des très fortes inégalités face au choix. Alors, souvent, on nous dit, mais Parcoursup, etc., c'est accompagné de beaucoup plus d'informations en direction des lycéens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à une masse d'informations. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes tous égaux face aux informations? Et la capacité aujourd'hui à trier des informations, à les utiliser de façon stratégique et même des choses très simples. Je discutais avec une de mes étudiants de thèse récemment. On avait regardé Parcoursup ensemble parce qu'on fait une analyse du dispositif dans son ensemble. Et par exemple, en Parcoursup, pour parler des classes préparatoires, on ne peut accéder à l'information sur les classes préparatoires que si on tape sur CPGE. Le nombre d'élèves des milieux populaires qu'on a interrogés qui savent ce que ça veut dire le sigle CPGE, eh bien, est très réduit. Donc, déjà, pour accéder à cette information de base dans le site. Donc, il y a énormément de travail à faire dans l'accompagnement des choix et il y a toute une rhétorique là-dessus, mais dans la pratique, on voit que les enseignants ne sont pas nécessairement très chauds pour aller dans ce sens par rapport aux tâches d'enseignement qu'ils ont par ailleurs et la question reste entière sur comment on égalise la situation des élèves face au choix.
CPGE, vous voulez nous définir ce sigle, Jean-Bastien Elie ?
Alors, les classes préparatoires aux grandes écoles.
Voilà.
Effectivement, je suis assez d'accord avec ce regard. Ce sont des vraies questions. Et alors en particulier sur les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, qui sont évidemment notre point de regard premier au sein de mon association. Nous sommes très attentifs à la façon dont elles sont présentées et dont précisément, quelle que soit l'origine géographique ou sociale des élèves, on a accès à l'information, voire à la motivation, à l'accompagnement, au soutien vers ces classes et ces parcours qui sont de très grande qualité.
Alors, mais justement, est-ce qu'on incite aujourd'hui les élèves, les lycéens, à cocher la case des classes préparatoires dans ce parcours sup, dans ce choix qui leur est proposé? Est-ce qu'aujourd'hui, les classes préparatoires sont aussi une source d'inspiration ou devraient l'être pour les premières années dans les filières universitaires? On sait aussi que toutes ces nouvelles règles, les parcours sup notamment, ont été mises en place pour l'entrée à l'université, pour penser cette entrée et réduire le taux d'échec en première année de fac, pour mettre fin aussi à ce qu'était avant une sélection par tirage au sort. Est-ce qu'il faudrait s'en inspirer?
Alors moi je pense que c'est effectivement extrêmement important. Je pense que oui, les classes préparatoires sont un sujet, et si on veut porter l'information et faire en sorte que le chemin vers les classes préparatoires puisse être avant même d'être fait, puisse être pensé simplement, connu, imaginé, il faut porter l'information. Alors une façon de faire, c'est à travers les établissements et l'accompagnement orientation, évidemment, de porter l'information aux élèves et les motiver. Une autre chose qui est toute récente et qui a été publiée sur le site du ministère de l'Éducation nationale, c'est une infographie spécifique, nouvelle spécialité, nouveau baccalauréat et parcours vers les classes préparatoires. Et à notre sens, c'est extrêmement intéressant, et je crois que c'est la première fois qu'on voit de cette façon-là le ministère montrer en page d'accueil de son site le chemin qui est possible et la pertinence du parcours classe préparatoire grande école.
Sachez, Jean Bastianelli, que vous êtes d'accord avec Jean-Michel Blanquer, et ça ne vous surprendra pas devant l'Association des professeurs de classe préparatoire économique et commercial récemment. Il estimait que l'enseignement supérieur dans son ensemble doit évoluer vers des premières années qui donnent, comme en classe préparatoire, une ossature qui peut être inspirante. Voilà en quoi il estimait qu'il avait besoin des professeurs des classes préparatoires comme point de repère. Agnès Van Zanten, j'en reviens juste à la question de départ, celle du bac aujourd'hui. On sait que cette loi pour l'école de la confiance pensée par Jean-Michel Blanquer et qui inclut un nouveau bac pour 2021 qui concernera à la fois la filière générale et les bacs technologique prendra notamment en compte un contrôle continu plus important dans le futur bac à hauteur de 40% et l'introduction d'un grand oral. Il y aura aussi la fin des grandes séries L, S et ES remplacées par un tronc commun de disciplines et des spécialités. Est-ce que pour vous, Agnès Van Zanten, tout ça va dans le bon sens? Parce que c'est comme ça que visiblement Jean-Michel Blanquer entend redonner sens et utilité à cet examen final.
Alors tout ne va pas dans le bon sens. Non, il y a, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il peut avoir un intérêt effectivement à réduire les épreuves du bac. En même temps, on peut se poser la question, notamment au sujet de mathématiques, qui aujourd'hui ne font pas partie donc de ce tronc commun. Et ça, je pense que c'est une vraie question, parce que probablement, comme on sait que les mathématiques jouent dans le système français un rôle de filtre extrêmement important, mais elles continueront à jouer ce rôle de filtre pour ceux qui prendront cette option par rapport à ceux qui ne la prendront pas. Donc, ça pose déjà ce type de questions. Le contrôle continu, je pense que ça peut être intéressant pour effectivement alléger le bac. Le problème du contrôle continu aujourd'hui, c'est de voir que il y a des fortes différences entre les lycées dans les façons de noter les élèves, et donc il y a des sortes d'ajustements locaux qui se font, et donc il est plus difficile de comparer le contrôle continu d'un lycée à l'autre que en fonction d'un examen terminal. Donc la question va se poser, quel mécanisme de contrôle on va pouvoir avoir dans les formes de corrections, des épreuves, etc., pour que cela ne nuise pas aux élèves. Par ailleurs, je suis assez sceptique par rapport à l'oral, donc je lisais le rapport qui a été produit par rapport à cet examen.
Pourquoi? Parce que la parole reste un marqueur social pour vous?
Il y a cette dimension-là qui est évidente, mais c'est surtout que pour l'instant, il ne me semble pas qu'il y ait un contenu très fort qui est donné à cette épreuve. Et il me semble que quand il n'y a pas un contenu intellectuel fort, effectivement, ce sont d'autres facteurs qui jouent davantage. Si on donne à cette épreuve un contenu fort, moi, je pense que l'oral est très important et très intéressant. Mais en soi, c'est pas nécessairement une préparation au supérieur, parce que les premières années dans le supérieur, on n'utilise pas tellement l'oral, et donc c'est plutôt une préparation au monde professionnel, mais ça peut venir un tout petit peu plus tard. C'est surtout, est-ce qu'on donne à cette épreuve un véritable sens dans la culture de l'enseignement secondaire, ce qui peut être le cas, mais pour l'instant, pour moi, ça ne l'est pas.
Des réformes, ces réformes vont-elles réduire ou aggraver les inégalités? On rouvre la discussion ensemble autour aussi de la question des grandes écoles, si vous le voulez bien, dans un quart d'heure. Agnès Van Zanten, sociologue de l'éducation, et Jean Pastianelli, président de l'association des proviseurs de lycées à classe préparatoire. Vous restez avec nous.
France Culture, les matins d'été. Olivia Gesbert.
Des stylos rouges au collectif Blocon-Blanquer, de la tenue des épreuves au rendu des copies, la contestation contre la réforme du ministre de l'Éducation se poursuit donc. Au-delà de la poussée de fièvre actuelle, ces réformes vont-elles réduire ou aggraver les inégalités? On en parle depuis 7h40 avec nos invités, la sociologue Agnès Van Zanten et le proviseur Jean Bastianelli. En parallèle, les grandes écoles tentent aussi la réforme de la suppression envisagée de l'ENA, la haute école d'administration, à celle du concours d'entrée à Sciences Po Paris. Il semblerait que les formations sélectives sont-elles aussi en train de bouger? Agnès Van Zanten, vous qui avez fait du mérite de la diversification des élites, de l'ouverture sociale des grandes écoles, le cœur aussi de vos recherches, est-ce que tout ça participe, selon vous, du même mouvement aujourd'hui, avec une fois encore la question de la direction que ça prend?
Oui, je pense que ce qui est important, c'est de voir que une ouverture sociale des élites est nécessaire, parce qu'il est très important que la nation se retrouve dans ses élites. Et effectivement, en France, il y a un divorce important entre les élites et la population de ce point de vue.
Mais supprimer le concours d'entrée, pardon, de Sciences Po, supprimer éventuellement l'ENA, ça participe pour vous de l'ouverture sociale des élites?
Mais j'ai un point de vue assez pragmatique par rapport à ces choses-là, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va produire en réalité. Et donc, dont effectivement, j'ai suivi de très près la réforme de l'admission à Sciences Po, et effectivement, il y a un certain nombre de décisions qui peuvent aller dans le sens d'attirer davantage des boursiers vers Sciences Po. Mais bon, on reste toujours un peu dans l'idée, ce que le critère boursier aussi, c'est le meilleur critère des diversifications sociales, et la difficulté de sortir du mérite. À partir du moment où on ne tient pas compte seulement des notes ou des résultats à un examen, quels sont les critères qui peuvent faire consensus pour définir? En France, c'est très difficile. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce qu'on a une vision un peu plus globale du mérite. En France, véritablement, le mérite, c'est condensé sur le mérite scolaire, et on a du mal à imaginer quels sont les mérites, notamment des jeunes, qui ne seraient pas des mérites scolaires.
Et donc là, il ne s'agit pas de le bannir, le mérite, mais de le redéfinir.
De le redéfinir, et donc c'est très compliqué. Et je pense effectivement qu'il faut peut-être plutôt garder des épreuves qui soient des épreuves un peu différentes que l'examen traditionnel ou que simplement les notes, plutôt que, par exemple, compter sur un oral ou sur des critères beaucoup plus flous qui me semblent très problématiques. Mais la chose qui me tient le plus à cœur, c'est que je crois qu'il y a une différence à vraiment avoir en tête entre l'ouverture sociale, ce qu'on appelle l'égalité des chances de ce type-là, et la véritable égalité des chances. C'est-à-dire que cette ouverture sociale, elle ne pourra jamais profiter qu'à quelques-uns. Ces quelques-uns peuvent avoir un rôle exemplaire, il est nécessaire que les élites se renouvellent, mais ce n'est pas ça qui va aller dans le sens de véritablement une réduction importante des inégalités dans le système d'enseignement. On peut à nouveau regarder vers les États-Unis, on peut voir véritablement une élite noire qui a été créée par les politiques d'affirmative action dans les universités, avec une inégalité extrême dans la situation des blancs et des noirs, entre autres dans le système
d'enseignement. Donc on pourrait envisager pour vous des mesures discriminatoires, des mesures positives qui permettent de forcer un peu cette ouverture, d'accélérer.
Il le faut à certains moments, je le pense, mais comme je dis, si on parle vraiment du système de formation des élites, ça ne concernera toujours qu'un petit nombre. Je ne dis pas que symboliquement ce ne soit pas important. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas ça la lutte contre les inégalités. La lutte contre les inégalités, c'est à l'école primaire, c'est au collège, c'est au lycée, avec des politiques de masse plus importante.
La suppression du concours d'entrée à Sciences Po, une procédure plus simple, plus équitable pour l'actuel directeur de l'institution. En 2021, il n'y aurait plus qu'une seule voie d'admission possible. L'objectif, selon Frédéric Mion, c'est de redéfinir l'élite de demain.
Nous devons mettre en œuvre une procédure qui soit plus équitable, plus efficace, plus simple que ce que nous faisons aujourd'hui. Le concours de Sciences Po, évidemment, va demeurer. Ce qui va changer, c'est la façon dont les choses sont organisées. Et à vrai dire, ceux qui disent que nous supprimons le concours forcent le trait, mais pour le forcer jusqu'au bout, nous ne supprimons pas un concours, nous en supprimons trois différents, qui sont les trois voies actuelles pour entrer à Sciences Po. Et nous faisons une voie unique d'admission à Sciences Po, dans laquelle... Il est vrai, et c'est là-dessus que se concentrent les commentaires, nous avons décidé de nous épargner ces épreuves écrites que passent aujourd'hui un peu moins de la moitié de nos candidates et de nos candidats.
Jean Bastianelli, pour vous aussi, les ressorts de la méritocratie à la française étaient rouillés, il faut redéfinir un peu ces principes.
Alors je ne sais pas s'il faut redéfinir les principes. En tout état de cause, il est certainement important d'y travailler de façon volontariste. Mmh. Quand on parle des filières sélectives et notamment des classes préparatoires aux grandes écoles, bien évidemment, c'est un point d'attention que nous avons tous, sur lequel des progrès importants ont été faits depuis les années 2000 et sur lesquels, dans le cadre de la plateforme Parcoursup, nous avons eu un point d'attention tout particulier en se basant et en observant non plus les quantités de boursiers que nous accueillons ensuite dans le supérieur avec le regard boursier du supérieur, mais en regardant parmi les candidats qui sollicitent une classe préparatoire aux grandes écoles, les boursiers du second degré. Et on a mis en place dans le cadre de la plateforme et sous la responsabilité des recteurs, une politique de croisement entre les dossiers de type académique. Alors nous, on fonctionne pas avec un concours comme à Sciences Po, on fonctionne avec un mécanisme de sélection sur dossier, mais néanmoins, on peut faire un croisement entre l'aspect académique et le parcours qu'on observe à travers ces dossiers-là, et puis la situation sociale et géographique, parce que les questions de mobilité géographique nous intéressent aussi des élèves. Et on se rend compte qu'on arrive de façon assez claire à faire progresser les choses. Alors mon avis, c'est que il y a effectivement une prise de position volontariste à avoir de la part des établissements, et on le fait, et on a suggéré même de mettre en place un observatoire des mobilités sociales et géographiques au niveau de l'entrée dans les classes préparatoires pour essayer de piloter de façon claire et stratégique cet accès et cette ouverture que nous souhaitons tous.
Cette question de la géographie sociale qui est très importante pour vous aussi, Agnès Van Zanten, sur notre antenne, Daniel Cohen, Jean Bastianelli, parler des étudiants essorés, épuisés, abrutis dans les filières, dans les classes prépa, c'est 4% en gros des effectifs. Est-ce que vous continuez à leur demander toujours un effort trop important à ces étudiants? Est-ce qu'il ne serait pas temps pour les prépas de se remettre aussi en question, finalement, comme l'ensemble des grandes écoles, mais aussi des parcours universitaires, et de répondre à cette critique de l'ultra-sélection?
Alors de l'ultra-sélection, je ne sais pas. Il y a une réelle sélection parce que derrière la classe préparatoire, comme son nom l'indique, on prépare à un concours. Il y a une logique de parcours en réalité entre les deux années de classe préparatoire et les grandes écoles qui sont derrière. Alors je crois qu'il faut être conscient que les choses ont bien évolué depuis déjà un certain nombre d'années, dans la mesure où le nombre de grandes écoles, que ce soit dans le domaine scientifique ou dans le domaine économique et commercial, s'est beaucoup étoffé, si bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de place. Nos élèves, quand ils sont en classe préparatoire, que ce soit dans une classe préparatoire très sélective ou dans une classe préparatoire peu sélectives, les classes préparatoires qu'on dit de proximité, les élèves savent qu'ils ont un parcours sécurisé, qu'ils vont avoir une place quelque part. La question aujourd'hui, c'est bien plus de savoir dans quelle grande école on va atterrir que de savoir si on va obtenir une place à un concours. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a certainement davantage de sérénité que ce qu'il y avait avant. Il n'en reste pas moins que les élèves jouent le jeu, et une fois qu'ils sont en classe préparatoire, ils essayent évidemment d'obtenir la meilleure école possible, et ils se mettent une certaine pression. Ça, évidemment contribue à un certain stress parfois, mais ça contribue aussi à une vraie mobilisation. Ça fait partie de la formation.
Agnès Van Zanten, le mot de la fin, il y a aussi tous ceux qui disent aujourd'hui, si on réforme trop, on va casser aussi le système de la méritocratie à la française. C'est le cas notamment de Maxime Tandonnet, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui parle lui aujourd'hui de nivellement par le bas dans le Figaro et qui déplore la fin du mérite et le discrédit des humanités avec cette réforme pour Sciences Po Paris, l'éventuelle suppression de l'ENA.
Oui, ce sont des critiques récurrentes. D'ailleurs, c'est intéressant de voir tout le discours depuis le début du siècle, du siècle dernier, du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, de façon récurrente, ce même type de discours. Je pense qu'effectivement, il est absolument nécessaire que notre vision du mérite évolue par rapport à l'évolution de la société. C'est simplement, comme je le disais tout à l'heure, pas simple de trouver une solution dans laquelle on tienne compte d'autres critères que simplement le mérite scolaire. On intègre ce que font aujourd'hui, par exemple, en Angleterre, des universités comme Oxford et Cambridge, quand ils parlent de prendre en compte des données contextuelles de la vie des élèves, qu'est-ce que l'on peut intégrer de ces points de vue dans les considérations. Mais pour revenir à la question des classes préparatoires dont on parlait, je pense qu'il est intéressant effectivement de voir que ce modèle doit aussi évoluer dans le sens d'une meilleure intégration d'une formation de l'enseignement supérieur, où il n'est pas une division aussi forte entre les classes prépa et les grandes écoles, mais une interaction entre les deux.
Merci beaucoup à vous, Agnès Van Zanten, et merci à vous, Jean Bastianelli. On met les références de vos ouvrages et des très bonnes tribunes qui sont parues dans la presse ou sur Internet, sur des blogs, sur ce sujet, vaste sujet, sur le site des Matins d'été, sur franceculture.fr.